Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Histoire de ma jeunesse, de François Arago, une autobiographie aussi vive qu'attachante. Publié à titre posthume, cet ouvrage offre un regard intime et souvent surprenant sur les années de formation de l'un des plus grands savants français du XIXe siècle, avant qu'il ne devienne à la fois astronome, physicien et homme d'État. Arago y raconte son enfance dans le Roussillon, où il naît en 1786. Ses années d'apprentissage, ses premières audaces intellectuelles et les hasards parfois rocambolesques qui le conduisent vers la science et la vie publique. Pour vous donner envie de lire ce livre, et aussi, je l'avoue, pour mon propre plaisir, j'ai imaginé un petit monologue dans lequel Arago raconte lui-même l'un de ses épisodes les plus marquants. Une version brève, subjective, comme s'il s'adressait directement à nous. Si cela vous accroche, et si ce ton vous amuse ou vous intrigue, alors n'hésitez pas, lisez ce livre, vous y trouverez bien plus qu'un récit de jeunesse, une leçon de curiosité et d'esprit libre. Alors, écoutons le Arago imaginaire. On parle aujourd'hui du mètre comme une évidence, une unité de longueur que l'on manipule sans même y penser. J'ai toujours été frappé par cette amnésie collective, car le mètre, dans sa jeunesse, ne fut pas paisible. Il naquit dans le tumulte d'une époque agitée, au croisement de la géométrie et de la politique. Et pour ce qui me concerne, au prix d'aventures dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence. La Révolution française ne voulait pas seulement changer les lois, elle voulait refonder le monde. Les poids et mesures, jusque-là hérités des coutumes locales ou de la volonté des rois, devenaient un symbole irritant, arbitraire et inégal. Il fallait une unité universelle, indépendante des hommes, tirée de la nature elle-même. Cette unité serait le mètre, définie comme une fraction, un millionième, du méridien terrestre allant du pôle Nord à l'équateur. Encore fallait-il mesurer ce méridien, alors que, je le rappelle, personne n'avait été jusqu'au pôle Nord à cette époque. Deux hommes s'y consacrèrent, avec un courage que je ne peux évoquer sans admiration. De Lambre, au nord de la France, méthodique, patient, d'une régularité presque mécanique. Méchain, au sud, brillant, passionné, mais habité par une exigence morale qui confinait parfois au tourment. Une discordance minuscule dans ses observations le poursuivit longtemps. Il la scruta, il la retourna, la soupesa, jusqu'à ce que le doute s'installe en lui comme une présence obsédante. À l'époque, je n'en mesurais pas encore la portée, j'étais jeune, je croyais que la science avançait toujours droit devant elle et que les chiffres, à force d'exactitude, finissent par protéger ceux qui les écrivent. Je fus bientôt appelé à poursuivre l'entreprise. J'acceptai sans mesurer pleinement ce que cela impliquait. Il s'agissait de prolonger cette immense chaîne de triangles jusqu'à Barcelone et les Baléares. La méthode, en vérité, est simple. On ne mesure pas la distance en marchant, on la calcule. On mesure une base courte, avec une précision extrême, puis des angles, puis encore des angles, un triangle naît, de ce triangle on en déduit un côté, ce côté devient la base du triangle suivant, ainsi de proche en proche, la géométrie remplace le voyage. Sur le papier, la méthode est élégante, sur le terrain, elle est vulnérable à tout ce que les hommes peuvent craindre ou soupçonner. Je partis vers l'Espagne avec mes instruments, convaincu naïvement que la rigueur scientifique suffirait à me protéger. J'ai découvert très vite qu'une lunette, un cercle répétiteur, un carnet de chiffres peuvent éveiller davantage de méfiance que de curiosité. Je montais sur des tours, je visais des sommets voisins, je restais immobile des longues heures à observer, on me regardait faire, puis on me demandait pourquoi, pour qui, les temps étaient troublés, les frontières incertaines. La guerre rendait les esprits nerveux. Il suffisait d'un soupçon pour qu'un savant devienne suspect. Je fus arrêté, interrogé, relâché, puis repris, parfois par les mêmes autorités, parfois par d'autres, comme si chacune tenait à reprendre l'affaire à son compte. Je compris alors qu'il est plus facile de démontrer un théorème que de justifier sa présence sur une colline. Il fallut pourtant continuer, car la mesure n'attend pas, elle dépend de la météo, de la visibilité, de la paix relative des routes. Je passais d'un poste à l'autre, cherchant des points hauts, des tours, des rochers, des sommets, et quand la terre finissait, la mer commençait. Au Baléares, je dus travailler avec cette impression étrange d'être au bord du monde. Le ciel immense, la mer comme une plaque sombre, et sur une île, un homme debout avec une lunette qui prétend mesurer la terre. Les habitants y voyaient une curiosité, puis une inquiétude, puis une menace. Le climat politique se durcit, je sentis que la science ne serait bientôt plus une excuse. Je pris alors la décision la plus raisonnable et la plus risquée, partir. Je gagnais la côte, la mer m'apparut comme une issue, j'embarquais sur un navire qui devait rejoindre la France. Marseille devint une obsession. Bon, les premiers jours furent calmes, mais d'une lenteur inquiétante. Le vent changeait sans cesse, les décisions à bord semblaient hésitantes. Et puis, un jour, un corsaire apparut. Je découvris ce que signifie vraiment le mot « pirate » ou « corsaire ». Le navire fut pris, les passagers furent saisis. En quelques minutes, toute géométrie perdit son autorité. Il n'y avait plus ni angle, ni méridien, seulement des hommes armés et une mer indifférente. Thank you. nous fûmes conduits vers la côte d'Afrique, vers Alger. À Alger, je ne fus pas un simple voyageur retardé, je fus prisonnier. Ni brutalement traité, ni libre, marchandé, surtout. La captivité dans ces lieux n'était pas une punition spectaculaire, c'était une attente organisée. Un état intermédiaire où on valait ce qu'on pouvait rapporter. Le temps change alors de nature, les jours se succèdent sans relief. On ne sait jamais si on est à la veille d'un départ. Je m'occupais comme je pouvais, je repassais mes observations, je reconstruisais mes triangles, je me récitais des chiffres, non par goût, mais pour ne pas laisser l'esprit s'effondrer. Moi, je calculais. Les triangles, au moins, ne trahissent pas. Je pensais souvent à Méchain, à son doute, à son exigence. Je comprenais mieux ce que signifie porter la science comme une responsabilité morale. Ce n'est pas seulement chercher la vérité, c'est accepter d'en répondre dans un monde qui ne lui est pas toujours favorable. Les semaines passèrent, puis lentement, les circonstances évoluèrent, des négociations eurent lieu, des papiers furent promis. J'avais appris à me méfier des annonces trop nettes. Lorsque je repris enfin la mer, ce ne fut pas dans l'enthousiasme, mais dans une sorte de fatigue. Le retour fut long, fait de détours et d'immobilisation. La mer décidait du rythme. Et dans cette lenteur, je compris une chose qui m'avait échappé jusque-là. Mesurer le monde, ce n'est pas seulement aligner des chiffres. Enfin, un matin, la côte française apparut, Marseille. On ne revient jamais intact d'une captivité. Je remis mes notes, je repris le fil scientifique. La mesure du méridien fut achevée. Le maître fut proclamé. Nous savons aujourd'hui qu'il n'était pas parfait. La Terre n'est pas exactement celle que nous avions imaginée. Mais je n'en éprouve aucun regret, car la science ne progresse pas par perfection immédiate, mais par méthode. Le maître n'est pas respectable parce qu'il est exact au premier coup, il l'est parce qu'il accepte l'erreur, à condition qu'elle soit reconnue. Lorsque je regarde aujourd'hui une simple règle, je n'y vois pas seulement une longueur, j'y vois des montagnes, des clochers, des nuits de doute, la mer, les pirates, Alger, l'attente, et cette obstination tranquille qui pousse les hommes à vouloir mesurer le monde plutôt qu'à s'y résigner. Voilà comment on acquit le maître, non dans le calme d'un cabinet, mais dans le tumulte d'une époque, là où la géométrie dut apprendre à voyager. Voilà, alors n'hésitez pas à aller acheter Histoire de ma jeunesse par Arago et vous m'en direz des nouvelles. Thank you. Vous avez écouté Haydn, Les Saisons, L'Orage, qui date de 1801. 5 ans avant l'expédition d'Arago en Espagne, en passant par Alger, qui peut évoquer la Révolution française, mais aussi l'orage dans la vie d'Arago.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.